C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Et je prétends d'ailleurs, d'une manière un peu exagérée, mais j'assume cette exagération, que depuis que le cinéma a fixé la possibilité absolue de reproduire la même chose, le théâtre devra en profiter pour redevenir libre. C'est-à-dire prendre sa leçon du côté de l'oralité.
Prendre sa leçon du côté de l'oralité. Voilà qui promet d'être intéressant. Salut, c'est Charles Cécile. Alors, dans cette émission, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire des extraits de Juste un mot, La révolution du sensible, le livre de Nicolas Roméas qui a été publié aux éditions Parole.
I still have a dream.
Dire, essayer de dire, balbutier, ouvrir en tâtonnant un espace sans signification définitive, en espérant qu'advienne ce que je cherche à dire. Laisser vacant l'espace entre les mots qui s'ajustent trop vite, entre les signes, montrer ainsi qu'une chose importante fait défaut. Dire que la façon dont nos esprits sont agencés ne nous satisfait pas. Dire que ce dont nous voudrions parler n'a pas encore de mots ou d'agencement de mots pour résonner, pour être vraiment entendu. Dire qu'il faut inventer, bricoler, tisser, tourner autour, à pas compter, précautionneusement, comme un indien et hopi, pour se rapprocher insensiblement de la cible sans vouloir la capter. Suite du grand entretien avec Nicolas Roméas, Karine Mazel au micro.
Tu disais que le théâtre devait s'inspirer de la liberté qu'il y a dans l'oralité. Est-ce que tu veux développer cette chose-là ?
Moi, ce que je peux dire, c'est que quand l'oralité m'est sauté aux oreilles, quand l'oralité m'est apparue comme une chose existante, que j'ai réussi à distinguer cette chose, l'oral, j'ai commencé à comprendre que cette évolution, cette transformation permanente du même, à travers les siècles, à travers les continents, à travers les cultures, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, un art nouveau se crée. Nous, quand on a commencé, le slam était très mal perçu, en général, dans le monde culturel, et j'avais le pressentiment que c'était la forme de poésie du moment, que c'était la forme que ça prenait aujourd'hui. C'est-à-dire que ça incluait la nécessité d'un dialogue permanent avec les autres, ça nécessitait quelque chose qui ne se faisait plus du tout et que les slameurs ont appelé les scènes ouvertes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'était pas du tout prévu et qui va intervenir et qui fait partie de la communauté, même s'il n'est pas du même âge, même s'il n'est pas de la même, s'il n'a pas les mêmes références culturelles. Et que tout ça va créer un lien entre des personnes qui habituellement ne sont pas supposés faire partie du même monde. Et que donc, c'est fondamental, cette histoire-là. Et le slam, par exemple, moi, j'ai découvert ça par des jeunes gens qui s'appelaient 129H, qui étaient des jeunes gens très, très jeunes à l'époque, qui avaient travaillé avec un gars qui est devenu très connu, Grand Corps Malade, mais qui, lui, a fait carrière solo ensuite. Et Ruda, Neo Bled et Lior ont continué à trois. Un Français très pro-palestinien, un Français juif mais très français, et un gars à la peau sombre avec des origines africaines mais venant des îles. Et ces trois-là, cette espèce de petits concentrés de notre richesse culturelle, quoi, sont des amoureux des mots, des amoureux des mots, des amoureux des mots comme Villon pouvait l'être, des amoureux des mots comme les plus grands ont pu l'être, avec un retour à quelque chose qui est « je te dis à toi quelque chose », avec une adresse à un groupe, d'ailleurs la plupart du temps, sinon en cercle, du moins en demi-cercle, mais en tout cas pas d'une manière strictement frontale, et avec la possibilité de la surprise, de quelque chose d'inattendu, qui va faire varier ce qui se passe d'un soir à l'autre, ce ne sera jamais exactement la même chose parce que ce n'est pas les mêmes gens en face et qu'il n'y a pas que les gens sur scène qui comptent, il y a aussi les autres en face. Et si ce n'est pas les mêmes, ça change. Et ça, c'est fondamental, cette histoire-là. Donc, c'est une remise en vie de l'oralité pour moi. Une remise en vie qui nous apprend que, bah oui, ça peut être lyophilisé dans le texte pendant des siècles. Et puis, tout d'un coup, vous le tremper dans le liquide de la vie que nous vivons tous ensemble, et hop, ça reprend sa forme d'échange.
C'est pas pour dire, entretien avec Nicolas Roméas.
Moi, ce dont je parle, c'est de passer à autre chose, de laisser de côté la notion de spectacle, qui, à mon avis, est un moment historique pas éternel, et qui a d'ailleurs trouvé, comme je disais, son aboutissement dans le cinéma, pour profiter du fait qu'on est des êtres vivants et donner du sens au mot art vivant. Vivant, ça veut dire imprévisible. Le spectacle, pour qu'il soit réussi, tout le monde le sait dans ce milieu, il faut que rien ne soit imprévisible. Ou alors que s'il y a quelque chose qui a l'air d'être imprévisible, ce soit prévu de longue date. Donc c'est exactement l'inverse. Et si quelque chose, moi, me plaît dans l'oralité, on avait d'ailleurs créé un système de podcast avec une bande de jeunes gens du Conservatoire National de Musique, j'avais donné comme titre La Fontanelle. La Fontanelle, parce que c'est l'endroit du corps humain qui met le plus longtemps à se durcir, et qui très longtemps reste vibrante, fragile, souple, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer, c'est une sorte de fontanelle. C'est-à-dire le contraire de la construction de spectacles parfaitement réussis, parfaitement aboutis, etc. Mais quelque chose dans lequel des interstices, des espaces, des failles soient ménagés pour que quelque chose de l'ordre du dialogue puisse avoir lieu.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré justement avec des conteurs ou des conteuses ?
Je ne sais pas, je pense que oui. Je suis pas sûr. Je pense qu'on a des fragments de ça en permanence, des instants, de brefs moments où on ressent ça. Et parfois c'est chez des gens inhabituels que ça se passe, chez des clowns, chez des mimes, chez des chanteurs parfois. Et d'ailleurs ça me fait penser que une des choses les plus nocives dans ce monde des arts vivants, c'est la séparation en groupes distincts. Maintenant, on parle de... Enfin, ça fait un moment qu'on parle de pluridisciplinarité, etc. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Il faut pas chercher à tuiler les choses et à les ajouter les unes aux autres. Il faut retrouver leur cœur commun. Et... je ne veux pas céder à un exotisme facile, mais je le pense vraiment. Je pense que, peut-être que ce n'est pas uniquement en Afrique que ça se passe, mais en tout cas dans certains moments festifs et rituels festifs africains, tu ne peux jamais séparer la musique, le chant, la danse, et même quelque chose qui s'apparenterait au théâtre. Tu ne peux pas les séparer. Et c'est ça, moi, que je trouve vivant.
Juste un mot, La Révolution du Sensible, le dernier livre de Nicolas Roméas. Beaucoup de choses peuvent se compter, les vivants et les morts. On peut mettre en chiffres la démographie, les injustices économiques, les désastres environnementaux. Pas la force du symbole, la puissance du rêve quand il pose les pieds sur la terre et y esquisse un geste. Elle concerne un humain dont la fonction primordiale est d'imaginer. C'est pourquoi l'étape est fondamentale. Pour l'art, pas de business plan. Sinon, il n'y a pas d'art, c'est notre chance. Quand l'art nous dit qu'il meurt, c'est comme le canari dans la mine. Nous avons perdu le sens du sacré qui empêchait de nous penser propriétaires du monde, de regarder tout ce que produit la terre comme un bien libre d'usage, qui permettrait au groupe humain de se vivre comme partie prenante et intégrante de l'univers. Nicolas Roméas, interviewé par Karine Mazel.
D'ailleurs, il y a aussi la concurrence. La concurrence qui va de pair avec ce que nos experts appellent l'excellence. Toute la vie des Occidentaux est un concours auquel, en principe, l'art devrait échapper. D'ailleurs, il n'y échappe pas ici, mais est-ce que c'est encore de l'art qu'on parle quand on parle de choses qui deviennent des produits de thésaurisation, etc.
L'émission à laquelle tu participes s'intéresse aux arts du conteur et de l'oralité. Je me disais que dans la revue, tu avais consacré un numéro spécial. Je crois que tu parlais du travail de Pepito Matteo, de Mimi Barthélémy. Est-ce que tu veux en dire quelque chose ?
L'intérêt de la rencontre avec des gens comme Pepito Matteo, par exemple, c'est que lui sait qu'il se trouve à un carrefour. Par exemple, il y a des choses qui ressemblent à Henri Michaud, il y a des choses qui ressemblent à Raymond Devos. Ce ne sont pas des conteurs, en principe. Enfin, ils ne font pas partie de cette catégorie. C'est autre chose. Et pourtant, lui, dans cette dilatation de son art, ou cette retrouvaille avec l'énergie initiale, qui ne le prive pas de là où ça mène. Ah non, là, t'es sorti du cadre. Là, t'es sorti du cadre, là. C'est plus du conte, ça. Bon, je pense que ça ne le gêne pas du tout. Et du coup, comme moi, je pense que le véhicule, ce véhicule qui est là, traverse le temps et l'espace. C'est à ça qu'il sert, ce véhicule, à traverser le temps et l'espace. Quand on s'en sert vraiment pour ce qu'il est, on va chercher des références très très lointaines ou des références juste à côté, mais que normalement on n'irait pas chercher, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de réinventer. Ce que j'essaye d'expliquer à ma façon, et je ne dis pas que j'ai raison, mais ce que j'essaie d'expliquer de ma pensée à ma façon, dans le bouquin, la création, ce qu'on appelle la création, ce qu'on appelle pompeusement la création, ne peut pas naître d'autre chose que d'un déplacement des fils qui tissent notre tissu culturel commun. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un tissu culturel commun, minimum, même si on va voir du théâtre no, on a quand même un tissu culturel commun avec les Japonais. Et même s'il faut qu'on nous explique deux ou trois trucs, on est des êtres humains et la mort existe pour nous comme pour eux, etc. Et pour que ça fonctionne et qu'on puisse inventer, il faut que ce tissu culturel commun sorte de ses ornières habituelles. Il faut qu'il se déplace. Et pour qu'il se déplace, il faut bouger ce qui habituellement est bien rangé. C'est pour ça que c'est plus de déplacement symbolique qu'on pourrait parler que de construction symbolique. Parce que les symboles sont toujours là. Ils sont toujours là. Il n'y a pas d'exemple de création artistique qui n'utilise pas des choses qui font immédiatement écho dans le cerveau du regardeur du tableau ou du spectateur du spectacle, etc. Il faut que ça fasse écho. Pour que ça fasse écho, il faut que ça y soit déjà. Mais pour que ça fasse un écho nouveau, c'est-à-dire que ça déplace dans le cerveau de la personne l'arrangement qui était installé, il faut que les symboles en question soient placés dans un ordre différent, soient déplacés, soient dérangés. Il faut déranger l'ordre des symboles. C'est ça qui fait que, tout d'un coup, au milieu du connu, au milieu de choses familières, il y a un trou. Tout d'un coup, il y a une faille. Et cette faille, le cerveau est obligé de la remplir. Donc, la création, c'est rendre l'autre créateur. En lui permettant, à partir de choses qu'il a déjà en lui-même, de faire le contraire de ce que te disait ton amie conteuse qui te parlait de la vertu moralisante des contes, etc. Parce que tout ça, ça existe déjà, c'est du passé, c'est fini. C'est pas devant nous, c'est pas nouveau. Et pour que ça fonctionne, il faut que ce soit nouveau au point de nous surprendre. Au point de nous... Et c'est pas le plaisir de la surprise pour la surprise, c'est pas « Ah, c'est nouveau, personne ne l'a jamais fait », c'est pas l'excitation esthétique de la nouveauté. C'est ce que ça produit dans nos neurones. Le fait que ça n'entre pas dans les cases habituelles nous oblige, nous, à y mettre quelque chose. Et en faisant ça, on invente pour nous-mêmes quelque chose qui n'y était pas, qui n'était pas en nous auparavant. Et c'est pas forcément la même chose pour chacun, mais disons qu'il y a des points communs. Pour que ça fonctionne réellement, il est impératif que les gens restent ensemble après. C'est impératif. Il faut absolument qu'ils soient là et qu'ils puissent se dire « Mais moi, j'ai pas du tout compris ça comme toi, etc. etc. » Jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'il y a de commun et que dans ce tissu commun, ils puissent mettre en valeur les figures diverses nées du cerveau de l'un et du cerveau de l'autre.
Au-delà de trouver ce qu'il y a de commun, il y a peut-être aussi la richesse d'articuler ensemble et entre elles des choses qui semblent opposées, contradictoires. Et que cette chose-là, c'est-à-dire pouvoir faire tenir ensemble des éprouvés, des lectures différentes dans un espace de parole après la représentation, c'est pas forcément une obligation de trouver du commun, mais c'est la capacité à tenir ensemble et à être ensemble dans la friction, dans la diversité, dans parfois ce qui paraît apparemment opposé.
À propos de l'intervention de l'actrice Corinne Massiero au César 2021, cet extrait du livre « Juste un mot, la révolution du sensible ». Pour Corinne, il parle de beauté, il parle de vulgarité, les amis de l'enthousiasmante Roselyne. Ceux-là, sans doute les mêmes qui ont tué Socrate, auraient trouvé la pitié de Delphes hystérique, Cassandre pas assez positive, Antigone un peu borderline. Ces gens-là voudraient parler d'art. Corinne Massiero a fait une chose simple. Prenons-en la mesure exacte. Elle a rappelé ce qu'est la force effective du geste artistique. Un acte qui nous fait tous sortir de la passivité du spectacle pour rejoindre une dimension symbolique profonde qui bouleverse, qui ne donne aucune solution, qui remplit simplement son rôle qui est de bouleverser en faisant voler en éclats les faux-semblants. Un acte qui oblige à bouger, à se lever de son fauteuil de spectateur. Ce n'est pas, comme le dit quelqu'un, le spectacle qui veut exister à n'importe quel prix. C'est la vie qui fait exploser le spectacle. Sans aucune garantie de résultat, évidemment. Faire surgir la vérité ne garantit rien. Et pour ceux qui diraient « Ah, mais ça n'est pas de l'art », souvenez-vous que ce pays a vu naître Antonin Artaud. Souvenez-vous que cette météorite a bousculé toute notre approche de la culture. De ce qu'il faisait aussi, au-delà des différences, vous auriez dit en son temps que ce n'est pas de l'art. Souvenez-vous de Dubuffet et de l'art brut. On ne parle pas d'un art structuré, construit à partir de techniques qui évoluent et se transmettent. On parle de ce qui est à l'état naissant, hors catégorie, où le politique et le symbolique ne peuvent être disjoints. Quel que soit le nom qu'on lui donne, cette façon de faire irruption dans le réel est intemporelle. Elle existait à l'époque des Grecs, avant même l'invention de la tragédie, et elle existe encore dans des cultures premières, où elle a toujours à voir avec la transe. Quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est toujours de cette source bouillonnante que jaillit ce geste. C'est pas pour dire, avec Nicolas Roméas, Karine Mazel au micro.
En quoi le sensible peut-il être une révolution pour toi ?
À mon avis, c'est la dernière possible. C'est la dernière possibilité pour l'être humain de comprendre ce qui est important pour lui. C'est la dernière possibilité pour l'être humain de cesser de se payer de mots, dire le contraire de ce qu'il ressent, ce qu'on croit que le langage doit faire. C'est-à-dire qu'on croit que le langage consiste à mentir. Et ce que prouve le geste artistique, moi je dis pas l'art parce qu'on va immédiatement y mettre un A majuscule, Mais le geste qui peut être la trace d'un geste, ou le souvenir d'un geste, ou un geste qui ne se prolonge pas et qu'on aurait soi-même envie de prolonger, etc. En tout cas, toutes ces choses qui ont à voir avec la manière dont on est aimanté par des énergies qui se passent à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, le fait de les avoir à l'extérieur de soi fait résonner en soi quelque chose qui a à voir avec ce qu'un groupe de chercheurs allemands a appelé les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui permet à l'esprit de réagir en fonction de ce qu'il a en face de lui, comme si il allait participer à l'action. Soit réagir contre, soit aller dans le sens de l'action. Simplement, ça n'atteint pas le corps au point de le déclencher. C'est ce qui se passe juste avant qu'un geste ait lieu. Et c'est ça qui fait que nous pouvons être absorbés à ce point par une histoire, par un spectacle, par une musique, par un film, etc. On est en fait en train de participer physiquement à la chose.
C'est bien où ça mène. Plus ils parlent de progrès, ils en parlent encore, plus l'air immobile se charge de cette molle terreur et plaque sur les visages ces sourires plastiques qui masquent l'angoisse. La grâce, alors, on n'aura plus de mots pour la dire, ni place, ni geste, ni regard. Il faut se faire entendre, recourir à un vocabulaire spécieux, donner le change, se référer pour être entendu à ceux dont il est entendu que la parole est entendue. Car c'est une guerre. Et il faut paraître savant, d'une science qui dissimule sa déficience derrière de lourds concepts. Trop suspect d'émotion, le savoir du presque rien précieux qui allume en nous la folle certitude d'être vivant est pourchassé sans trêve par la part vulgaire de l'humain qui plombe, tire, entraîne vers les fonds. Loin, bien loin de l'inestimable presque rien. Oui, parlons d'art si vous voulez, j'entends ce mot encore, mais ne parlons pas de beauté. Cette imagerie défectueuse pue le make-up, la poudre de riz frelatée. Breton la voulait convulsive, nous la désirons éruptive. Jetons ce mot. Il faut ressentir l'arrachement au faux, le retour à la grâce qui est légère, toujours.
Shadow, lovely as lace and cold as ice. many times I've been up to see her, goodness knows. Huffing and puffing, dressed in the warmest climbing clothes. How many chances would be taken in my hopeless pursuit of the Schneemädel-Edel? Spirit, if you would win your lady love, there's only one way fall to your death from high above. You will begin to grow in snow beside the one you have mated with. Now I'm an edelweiss to my maidel edelweiss, dying to be with her wasn't any sacrifice. We
Entretien avec Nicolas Roméas, Karine Mazel au micro.
Je me disais aussi que c'est comme si cette découverte des neurones miroirs nous donnait une réalité physiologique à la notion même de catharsis, au fond. Et c'est absolument admirable parce qu'effectivement, on voit sur le visage de spectateurs la manière dont ils sont traversés de manière psychocorporelle et affective par ce qu'ils voient. Et on constate au quotidien nous-mêmes qu'on peut se mettre à saliver de voir quelqu'un manger. Et ça va même plus loin. On a des possibilités de rééducation des pianistes qui sont cassés des doigts. Le simple fait d'imaginer que le doigt joue tous les jours, il y a une capacité de récupération plus forte. Ça montre bien l'indissociabilité entre le corps on appelait ça l'esprit, bon, ok. Et puis, dans la question de la révolution du sensible, je crois qu'il y a aussi, de ta part, cette formulation à avoir aussi avec une dénonciation de la société rationnelle, soi-disant objective, et de la réduction de l'humain à l'état de ressources humaines, comme on a pu le dire en management à l'américaine, et que cette dimension immatérielle de l'être est une révolution au sens où, avec le transhumanisme et avec la réduction systématique de l'être humain à une fonction, aussi à des catégories, on est un touriste, on est un salarié, on est un artiste, on ne cesse d'être dans des catégories qui nous réifient, et le sensible nous rétablit dans quelque chose qui est irréductible.
C'est sûr que cette revendication a à voir avec une impossibilité occidentale, typiquement occidentale, de donner de la valeur à ce qui n'est pas mesurable. Et moi, je parle sans arrêt d'outils du symbolique, parce que je sais que la valeur d'un symbole n'est pas mesurable. Mais que, par exemple, le fait que vous puissiez être bouleversé par un texte, par un tableau ou par une musique, peut effectivement changer quelque chose dans votre manière d'appréhender la vie. En tout cas, réveiller quelque chose qui avait besoin de l'être. Et donc, c'est fondamental. Les Tibétains le savent. Apparemment, beaucoup d'Amérindiens le savaient. Je pense que ça se sait pas mal en Inde, etc., etc. Et les Occidentaux l'ignorent. Mais les Occidentaux aujourd'hui, il y a aussi un aspect politique, les Occidentaux aujourd'hui, leur cheval de bataille, c'est l'écologie. Sauver la planète. J'ai vu tout à l'heure un jeune homme casqué sur une moto pétaradante et très polluante, arborer fièrement un t-shirt « Save the Planet ». Qu'est-ce que c'est que cette planète qu'on veut sauver ? Cette planète, elle s'ignore elle-même, c'est nous qui la nommons comme ça. Donc c'est pas la planète que nous voulons sauver, c'est l'être humain. L'être humain qui a besoin d'aimer les animaux, qui a besoin d'aimer les arbres, qui a besoin d'aimer la mer, qui a besoin de tout ça pour être dans un dialogue avec le monde qui l'a porté et qui l'a fait naître. Mais c'est pas la planète qu'on veut sauver, c'est le sensible. Donc, parler de la révolution du sensible, c'est dire, au-delà de cette mode, je veux dire, c'est pas seulement une mode, évidemment, mais c'est cette réalité visible par tout le monde dans laquelle on est aujourd'hui, réchauffement climatique et tout ça, qui sont les conséquences matérielles de notre absence de sensibilité, le cœur vraiment du problème, c'est est-ce que je suis capable de me mettre en accord avec ce que je ressens ? Le cœur du problème, c'est ça. Est-ce que je suis capable de dire ce que je ressens au lieu de dire le contraire ? Ou au lieu de mentir pour être raisonnable, ou au lieu de mentir pour être du côté du pouvoir, etc., etc. C'est très difficile parce que le langage ne permet pas ça. Le langage fabriqué pendant des siècles par les pouvoirs, et notamment en France par les académies, repris, retravaillé, rebalisé, recadré par les académies, ne permet absolument pas de ménager les failles dans lesquelles notre sensibilité peut trouver cette vibration irrationnelle qui correspond à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire un bouleversement immesurable, incommensurable. Cette chose-là, c'est la source même de toute la question. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Personne ne l'ignore. Aucun être humain sur Terre n'ignore que le problème, c'est la destruction de sa propre sensibilité. Il peut dire le contraire, mais ce savoir est absolument profond et évident. Simplement, on n'a pas le droit, on n'est pas autorisé à le faire. Il y a donc un endroit dans les sociétés occidentales modernes où cette chose-là peut encore exister. Ça s'appelle l'art. Ça ne s'appelle pas l'art coté au marché à la bourse de l'art. Ça ne s'appelle pas l'art qui va gagner le grand trophée. Ça ne s'appelle pas l'art de ce génie qui écrase tous les autres. Ça s'appelle le geste artistique. Et c'est là que réside, à mon avis, la possibilité de donner à comprendre et à ressentir de quoi on parle et qu'on est très sérieux quand on en parle. Ce n'est pas une blague. C'est pas de la petite poésie pour faire joli, c'est extrêmement profond et ça met en question de quoi on parle quand on parle de cette vibration qu'on a accepté de sacrifier et qui est notre relation au monde, notre relation à la nature, notre relation, notre bouleversement, notre... Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me sens comme ci et comme ça, à cause de ceci et de cela, etc., etc., etc. Je sais pas comment ça se dit, j'en sais rien. Bon, je vais rien dire parce que du coup, personne va me prendre au sérieux, personne va me croire. Mais la poésie peut essayer de le faire. La poésie passe son temps à essayer de le faire. À essayer de réinventer du langage avec le langage. C'est en déplaçant les symboles, en déplaçant les objets symboliques que nous comprenons. Mais en les déplaçant de telle manière qu'on ne comprenne plus tout à fait. Ce qui nous oblige à percevoir quelque chose que la plupart du temps on perçoit tout seul, sans pouvoir le communiquer. Au bord d'une rivière, ou je ne sais pas où, hein, à l'aube, dans un jardin, à l'aube, on ressent quelque chose. On peut écrire trois vers, mais, ou même un air de musique, mais c'est difficile d'en discuter. La discussion casse toute cette fragilité. Les mots sont comme des tanks, quoi. C'est une armée. Une phrase, c'est une armée. Les mots s'entrechoquent, les mots se font la guerre les uns les autres. Les mots s'écrasent, un mot supprime un autre mot, etc. C'est pas de l'ordre de l'imperceptible et de la fragilité qui est notre vraie question. La vraie question de l'être humain, c'est ça. Nous savons que nous sommes extrêmement fragiles et nous sommes heureux de ça. Nous sommes heureux d'être extrêmement fragiles. Après, ça nous emmènerait trop loin et je vais vous rendre le micro, mais ça pourrait nous emmener vers une discussion sur par exemple la façon dont Pacôme Thielman parle des gnostiques, en parlant de l'opposition entre un dieu dominant, un dieu puissant, un dieu qui fait peur, et un dieu fragile, qu'on doit protéger. Un dieu faible, qu'on doit protéger. Parce qu'il est beaucoup plus faible que nous. Ce dieu-là a beaucoup à voir avec ce dont je parle quand je parle d'art.
Bon, merci Nicolas.
Bon, bah, au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine.
not boys.
Juste un mot. Le monde se géant titube et manque de s'écrouler. D'un trou en son centre coule un babil insupportable, surfait, très émouvant parfois, qu'on appelle art, charriant par tonnes les sédiments agglutinés d'anciennes questions informulées, de savoirs oubliés. Mots imprononcés devenus inaudibles, poussière, suffocation, soif, de grands pans de réalité se fissurent. Des blocs tombent, fracas, de lourdes masses de savoir nous frôlent dangereusement, s'effondrent, s'amoncellent, braisent lambeaux de charpente affaiblis, brusquement détachés de peuples arrachés à leur imaginaire. Des cris qu'on capte mal, où se mêlent l'urgence et la rage de séduire. Et cela tiendrait dans un mot. Tout ce sang, cette cendre, ces blessures, cette perte, et l'agonie d'un monde et l'inespérée renaissance aux limites du possible, ça tiendrait en un mot, ce seul mot. Ce mot trop grand, ce mot sans fin, sans fond, qui flotte sans but et sans boussole dans l'eau trouble de désirs inassouvis et obstinés. Ce mot qu'on n'attrape ni par la queue ni par la tête, qui fend silencieusement la nuit des temps, par-dessus les toits, les ateliers, les mansardes, les théâtres. Ce mot, dont on voudrait ne pas perdre la trace, veut toujours trop en dire et n'en dit jamais assez. Ce mot qui déborde sans cesse ne veut rien dire en dehors de l'acte, mais qu'un rien porte à ébullition. Ce mot dont on cherche en vain à capter l'essence, mais qui vient lentement à nous dans cette musique subtile, sacré, qu'on peut entendre au loin, très loin, derrière les bavardages, tous les bavardages. Ce mot nous happe, nous perd, nous étourdit et impose le silence, un désert. Puis la poussière retombe dans le soleil et ce sont ces instants où l'on pense que ça y est, c'est fini et où l'on sent que ça recommencera. La paix est brève. Cependant, on s'entretuerait pour ce mot. C'est la fin de ce grand et passionnant entretien. Je ne sais pas vous, mais j'ai eu envie de prendre des notes toutes les deux minutes, tellement je trouve que Nicolas Roméas arrive à poser des mots justes, des images claires sur des ressentis dont il n'est pas toujours facile de parler. Bon, vous pouvez réécouter cette émission et toutes ses petites sœurs sur le site www.c'estpaspourdire.fr et nous envoyer des commentaires ou des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Un grand merci à Karine Mazel, merci également bien sûr à Nicolas Roméas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.